Un excellent séjour dans la belle ville de Québec. Ce matin, il y a un soleil radieux et on espère que c'est le signe qu'il nous faut pour avoir une excellente conférence. Mon nom est Jacques Lebuis, je suis sous-ministre associé à l'énergie et je vais être avec vous ce matin pour présider la session. D'abord, nous aurons une présentation, un discours d'accueil par M. François Thavenant, qui est recteur à l'Université Laval. M. Thavenant est un professeur de génie civil qui a œuvré à l'Université McGill et qui est revenu à Québec comme recteur de l'Université Laval. M. Thavenant est un ami des ressources naturelles, je dirais. M. Thavenant a eu à travailler sur le développement de grands projets hydroélectriques et on l'invite à nous faire son petit discours ce matin.
Merci, M. Lebuis. Effectivement, me retrouver à côté de Jacques ce matin, ça rappelle de bons vieux souvenirs, puisque nous avons travaillé tous les deux sur le même genre de problème il y a une vingtaine d'années. On était loin de l'énergie à ce moment-là, mais la collaboration avait été fructueuse. Monsieur le ministre d'État aux ressources naturelles, monsieur le sous-ministre associé, monsieur le président fondateur des colloques, chers collègues, mesdames, messieurs. C'est avec un très grand plaisir que je suis avec vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue et pour poursuivre la tradition bien établie au fil des ans par les recteurs de l'Université Laval de s'adresser aux participants des colloques internationaux d'économie pétrolière. 25 ans après le premier colloque organisé dans le contexte de ce que les économistes et maintenant les historiens ont baptisé le premier choc pétrolier, nous en sommes aujourd'hui au 11e de ces colloques qui font honneur à la région de Québec et à notre université, qui contribuent au rayonnement de nos chercheurs et, surtout, qui enrichissent la réflexion et nos connaissances sur la question de l'énergie, question vitale s'il en est pour nos sociétés et pour toute notre planète. Vous me permettrez tout d'abord de féliciter mes collègues du groupe de recherche en économie de l'énergie qui, grâce à leur clairvoyance, ont su réunir dès 1973 les grands experts et les décideurs politiques et économiques du monde entier dans un lieu de rencontre et de discussion neutre autour d'un sujet chaud à cette époque, mais qui garde toute son actualité et son importance à l'aube du troisième millénaire. Je veux tout particulièrement souligner le travail remarquable du fondateur de ces colloques, mon collègue et ami, le professeur Antoine Ayoub, qui peut s'enorgueillir à juste titre d'avoir créé un forum mondial de réflexion qui a attiré à Québec, au fil des années, des personnalités aussi remarquables que divers ministres de l'énergie des grands pays producteurs de pétrole, de l'Arabie saoudite au Venezuela, comme des secrétaires généraux de l'OPEP, comme les présidents de grandes sociétés pétrolières mondiales, ou comme les responsables de grandes entreprises publiques de distribution d'énergie. Les 11 colloques qui se sont tenus ici depuis 25 ans ont été honorés de la présence de tous les ministres de l'énergie de notre pays et de bien d'autres décideurs politiques ou économiques que le temps ne me permet pas d'identifier. Le colloque de cette année ne fait manifestement pas exception à la règle avec une liste de conférenciers dignes de ses prédécesseurs. Les colloques de Québec sont ainsi devenus un haut lieu de la réflexion mondiale sur l'économie pétrolière et l'économie de l'énergie. Avoir réussi cela au Québec, où le pétrole n'abonde pas, c'est le moins qu'on puisse dire, est tout à l'honneur d'Antoine Ayoub et de ses collègues, tout à l'honneur de leur expertise et de leur réputation dans les milieux de la recherche en économie pétrolière. Le recteur que je suis ne peut que se réjouir de voir ainsi affirmer depuis 25 ans sur la scène mondiale la qualité de l'Université Laval et de ses chercheurs. Un colloque comme celui qui nous réunit aujourd'hui est important pour l'Université à plus d'un titre, au-delà de l'illustration de sa notoriété. C'est par ce genre d'activité qu'une université comme la nôtre peut remplir sa mission d'observatrice critique des problèmes de la société et de forum de réflexion objective sur les idées des mouvements économiques, sociaux et politiques, locaux et mondiaux. C'est par ce genre d'activité que l'université peut remplir sa mission de rassemblement et de confrontation des points de vue dans un environnement neutre et un climat serein où l'analyse intellectuelle prend le pas sur les préoccupations politiciennes. C'est aussi par ce genre d'activité que notre université peut jouer pleinement dans sa région son rôle de fenêtre sur le monde. À ce sujet, je veux partager avec vous le plaisir de voir ce colloque symboliser une des grandes priorités que notre université s'est donnée pour les prochaines années, à savoir son ouverture croissante sur le monde. À l'ère de la mondialisation accélérée de tous les aspects du fonctionnement des sociétés modernes, les étudiants universitaires doivent s'ouvrir aux réalités sociales, culturelles, économiques et politiques du monde s'ils veulent ensuite assumer pleinement leurs responsabilités de professionnels et de citoyens éclairés. Les universités ont le devoir de leur rendre accessible cette ouverture en leur offrant pas seulement des programmes de qualité, mais aussi des possibilités de contact avec la diversité internationale. Nous avons la ferme intention de faire plus et mieux dans ce domaine, en attirant à Québec plus de grandes réunions internationales comme celle qui vous réunit aujourd'hui, en offrant à nos étudiants des possibilités accrues de stages d'un trimestre ou plus dans des universités partenaires, et à cette fin, nous tissons actuellement un réseau de grandes institutions aux quatre coins du monde, en accueillant à l'Université Laval un nombre accru d'étudiants étrangers, de la francophonie bien sûr, mais aussi de tous les pays. Le Québec et l'Université Laval, situés comme ils le sont au confluent de la tradition européenne et de l'actualité nord-américaine, ont beaucoup à offrir aux jeunes d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est qui veulent acquérir une formation universitaire de haute qualité dans un milieu de recherche dynamique. Enfin, en faisant rayonner le nom de l'Université Laval par une implication renforcée dans les grands réseaux de recherche internationale. L'action de mes collègues du groupe de recherche en économie de l'énergie, qui fête cette année ses 25 ans d'existence, est exemplaire à cet égard. Une dernière raison pour moi de me réjouir de votre présence ici est de constater qu'un colloque comme le vôtre permet à l'Université Laval de remplir également sa mission de partenaire économique de la région qui l'abrite. La région de Québec, autour de sa ville classée joyau du patrimoine mondial par l'UNESCO, voit son avenir dans les développements combinés des industries du savoir et de l'activité touristique. La tenue, dans nos murs, de colloques internationaux qui réunissent des conférenciers et des participants venus des quatre coins du monde pour traiter des thèmes scientifiques ou économiques de pointe, appuie remarquablement ces deux axes de notre développement régional en affirmant la place de Québec sur la scène internationale. Si ce 11e colloque est réussi, on peut l'attribuer bien sûr à la qualité du programme et des conférenciers et à la réputation des colloques de Québec. Il ne faudrait pas cependant oublier les heures, les semaines et les mois d'efforts qu'a nécessité son organisation, et je veux souligner le travail du comité organisateur de ce 11e colloque qui, sous la direction traditionnelle d'Antoine Ayoub, a dressé un programme d'une grande richesse et invité des conférenciers de haut calibre. Je tiens à remercier les partenaires qui se sont associés à la tenue de cette activité. Votre contribution témoigne de votre intérêt envers la recherche et le progrès des connaissances. Je termine ici mon propos en vous souhaitant un colloque fructueux. Dans une rencontre comme celle-ci, le contenu des communications est certes très important, mais, vous le savez d'expérience, les contacts humains et les échanges informels le sont tout autant. Je souhaite que votre colloque connaisse un franc succès sur ces deux plans. Et je vous souhaite un agréable séjour dans la ville de Québec, plus belle encore sous ce soleil automnal radieux qui déverse son énergie sur vos réflexions. Merci.
Merci, M. Thévenard. Nous invitons maintenant M. Guy Chevrette. M. Chevrette est ministre d'État des Ressources naturelles. Il est donc responsable de beaucoup d'activités en matière de ressources naturelles, les terres, les forêts, les mines et bien entendu l'énergie, qui est un petit secteur en termes d'importance, mais quand même très actif. Monsieur Chevrette est un politicien de très longue expérience, 22 ans sans arrêt de carrière politique à l'Assemblée nationale du Québec. Il a occupé plusieurs fonctions, notamment ministre de la Santé, ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, ministre aux Affaires municipales, ministre au Développement régional et aujourd'hui ministre des Ressources naturelles. J'invite donc M. Chevrette à nous présenter son allocution.
Monsieur Ayoub, M. Thévenard, M. Lebuis, mesdames, messieurs, je suis heureux de me retrouver ici ce matin. Et je dois vous dire que je constitue une police d'assurance pour M. Ayoub, puisqu'il croyait qu'avec le déclenchement des élections hier, n'y aurait plus aucun ministre ici aujourd'hui. Mais on est aussi confiant à la veille de ce scrutin. Avec un départ ensoleillé, je suppose que la campagne sera radieuse. Mais je voudrais me déclarer à nouveau très heureux d'être parmi vous au colloque international d'économie pétrolière. Ces colloques qui ont vu le jour au moment du choc pétrolier il y a 25 ans sont maintenant devenus de véritables forums à la fois libres et académiques où les participants ont la possibilité de discuter ouvertement de plusieurs sujets touchant les questions énergétiques dans différents pays du monde. Ce type de rencontre internationale est rare, mais nécessaire. Le fait que celui-ci se tienne à Québec, la seule capitale francophone d'Amérique, et que les discussions se déroulent pour une bonne part en français, représente un acquis important pour la francophonie. Les sujets de discussion prévus à l'ordre du jour de ce 11e colloque décrivent bien les enjeux internationaux dont le gouvernement du Québec a eu à tenir compte dans l'élaboration de sa dernière politique énergétique. Je pense entre autres ici au prix du pétrole, à la sécurité des approvisionnements, à la libéralisation et la réglementation des marchés, à l'émergence de compagnies multi-énergétiques et bien sûr à la mondialisation. Cette politique énergétique a été l'aboutissement d'un long processus dont on peut situer l'origine dans le choc pétrolier qui, il y a 25 ans, secouait nos habitudes énergétiques. Auparavant, le Québec était presque totalement dépendant du pétrole, 70%, une source d'énergie sur laquelle, bien sûr, nous n'avions aucun contrôle, tant sur le plan des approvisionnements que sur celui des prix. La crise pétrolière a donc incité le Québec, qui était conscient du rôle essentiel du secteur de l'énergie dans le développement de l'économie d'un pays et du bien-être de sa population, à se tourner vers le développement de ses propres ressources, notamment l'hydroélectricité, particulièrement abondante chez nous et totalement sous notre contrôle. En misant sur cette ressource renouvelable, nous adoptions implicitement une approche de développement durable, et ce, bien avant que cet intérêt ne figure au palmarès des préoccupations sociales et économiques d'aujourd'hui. À cette époque, nous avions aussi entrepris de diversifier nos approvisionnements énergétiques. Grâce à la mise en service de l'oléoduc Sarnia-Montréal, nous avons eu recours au pétrole brut en provenance de l'Ouest canadien, qui disposait de réserves abondantes de gaz naturel. Nous en avons fait la promotion chez nous. La conjugaison de ces mesures a permis au Québec de renverser complètement la situation de dépendance énergétique qui prévalait alors. Parallèlement à la mise en valeur de l'énoncé potentiel de ses ressources hydroélectriques, le Québec a aussi développé une expertise dans la production et la distribution de l'hydroélectricité qui est maintenant mondialement reconnue. C'est dans cette même optique que nous comptons à présent développer le fort potentiel d'énergie éolienne du Québec. Il y a quelques semaines, j'ai reçu favorablement un avis de la Régie de l'énergie, dont je salue le président. Je disais donc que j'ai reçu un avis favorable de la Régie de l'énergie sur cette question. Et actuellement, le plus important parc d'éoliennes au Canada est en construction dans la région de la Gaspésie. Autre conséquence à l'échelle nord-américaine du choc pétrolier, eh bien, nous avons revu entièrement nos politiques énergétiques depuis lors. Graduellement, des processus de déréglementation se sont enclenchés, d'abord dans le secteur pétrolier, puis au cours des années 80 et 90 dans celui du gaz naturel. C'est dans cette perspective que le Québec adoptait en 1988 une loi créant la Régie du gaz naturel. En 1996, nous adoptions une nouvelle politique énergétique dans le contexte de déréglementation du secteur de l'électricité en Amérique du Nord. La Régie de l'énergie a ensuite été mise sur pied avec des pouvoirs en matière de distribution de gaz naturel et d'électricité et de surveillance des marchés des produits pétroliers et de la vapeur. Bien que la situation est maintenant très différente, le Québec doit tout de même rester vigilant quant à la sécurité de ses approvisionnements énergétiques ainsi qu'à leur diversification. Les hydrocarbures continuent d'occuper plus de la moitié du bilan énergétique québécois, alors que le secteur du transport demeure un secteur captif du pétrole et le sera encore durant plusieurs années. Notre politique énergétique reconnaît qu'il faut faire davantage de place au gaz naturel. Le Québec veut également profiter de sa situation pour devenir un carrefour d'échanges énergétiques en Amérique du Nord. Et cela suppose, bien sûr, une consolidation de la position des hydrocarbures. À la suite des récentes découvertes du pétrole sur la côte ouest de Terre-Neuve, les programmes d'exploration en voie de réalisation et les mesures fiscales incitatives instaurées par le gouvernement ont suscité un essor important de l'exploration pétrolière au Québec. En septembre dernier, le gouvernement du Québec a effectivement annoncé que les frais d'exploration minière, pétrolière ou gazière engagés au Québec et financés par le biais d'un programme d'action accréditive pourront donner lieu à un allègement fiscal des particuliers qui y contribuent. Plusieurs compagnies importantes d'exploration pétrolière opèrent actuellement sur le territoire québécois. Plus de 4 millions d'hectares sont couverts par des permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, alors qu'en 1985, à peine 600 000 hectares du territoire étaient sous permis. Ce qui nous force à constater que la possibilité d'une découverte de gisements d'hydrocarbures sur le territoire québécois ne peut plus être écartée. D'ailleurs, la compagnie Jaltin de Québec a récemment découvert de nouveaux indices significatifs de gaz naturel dans le parc industriel de Bécancour. Les essais en cours permettront de mieux quantifier l'ampleur de cette découverte. Cela m'amène donc à vous parler de la distribution du gaz naturel. Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec a donné son appui à un certain nombre de projets visant l'extension des réseaux gaziers. Nous avons notamment appuyé le projet de prolongement du gazoduc de Trans-Québec Maritime, ce qu'on appelle TQM ici, vers le réseau Portland Natural Gas Transmission System. Ce projet est actuellement en voie de réalisation. Il est important sur le plan économique, non seulement parce qu'il représente des investissements de 270 millions et la création d'environ 2000 emplois directs et indirects, mais aussi parce que le Québec réalise ainsi un jalon essentiel de sa politique énergétique, soit de faire du Québec un carrefour des échanges énergétiques du Nord-Est américain. Par ailleurs, ce projet renforce le réseau de distribution de gaz naturel dans plusieurs régions du Québec et permet d'accroître la qualité du service à la clientèle. Et ce, sans compter les retombées économiques très intéressantes entraînées par l'arrivée du gaz naturel dans les régions qui n'étaient pas desservies auparavant. Voilà donc des gestes concrets. Et nous espérons bien qu'il y en aura d'autres. Par exemple, le Québec demeure toujours intéressé à accéder aux réserves de gaz naturel de l'île de Sable sur la côte est du Canada. Nous appuierons tout projet viable de gazoduc provenant de l'industrie à cet égard. Enfin, le Québec dispose aussi de réservoirs souterrains pour le stockage de gaz naturel, permettant de sécuriser une partie de ses approvisionnements. Au chapitre de la distribution des hydrocarbures sur le territoire québécois, il faut aussi parler de la régie de l'énergie mise en place au Québec il y a à peine un an. Tel que le prévoit la loi sur la régie de l'énergie, des audiences publiques ont lieu cet automne sur les coûts d'exploitation que doit supporter un détaillant en essence et en carburant diesel. Cet organisme assure également d'autres responsabilités en matière de surveillance des prix des produits pétroliers. Quant aux approvisionnements en pétrole brut, une décision favorable a été rendue par l'Office national de l'énergie au printemps dernier relativement à l'inversion du pipeline Sarnia-Montréal. Cette décision est conforme à nos attentes dans la mesure où les principales préoccupations du gouvernement du Québec ont été considérées et qu'elle permettra de consolider la compétitivité économique des raffineries montréalaises. Il reste à nous assurer maintenant que les approvisionnements pétroliers se feront dans les meilleures conditions possibles. Enfin, nous ne pouvons plus ignorer un des impératifs incontournables du développement futur de l'industrie, c'est-à-dire toute la question du respect des engagements internationaux en matière d'émissions polluantes. Après le choc pétrolier d'il y a 25 ans, nous devrons peut-être maintenant parler du choc environnemental, un défi majeur qui fait appel à la responsabilité et à l'engagement de tous. Avec tous ces changements survenus au cours des 25 dernières années, la réflexion du Québec sur le plan énergétique s'est clairement tournée vers l'avenir, dans un contexte nord-américain de déréglementation et dans une perspective de développement. De développement, je dis bien, durable. avec sa politique énergétique, issue d'une table de concertation et d'un vaste débat public qui aura duré plus d'un an au Québec. Le Québec est donc prêt à faire face aux exigences actuelles, comme entre autres l'ouverture des marchés de gros de l'électricité. Ainsi, le réseau de transport d'électricité d'Hydro-Québec a été rendu accessible à des tiers, ce qui a permis à notre société d'État d'obtenir un statut de négociant auprès de la FERC, la Federal Energy Regulatory Commission. Avec ce statut, il est désormais possible à Hydro-Québec de vendre de l'électricité directement aux grossistes américains. Par ailleurs, nous savons, et notre politique énergétique en témoigne, que les alliances stratégiques entre différents fournisseurs d'énergie dans un contexte de convergence des énergies forment dorénavant des combinaisons gagnantes. Plusieurs transactions récentes, tant chez des entreprises pétrolières, d'électricité et de gaz naturel au Québec et au Canada, illustrent bien cette nouvelle tendance. Électricité, pétrole, gaz, nous assistons de plus en plus à une convergence des activités liées au développement de ces ressources et à une mise en valeur de la complémentarité de ces différentes formes d'énergie. N'est-ce pas là que nous retrouverons le défi et les enjeux principaux du secteur de l'énergie des 25 prochaines années? Vous aurez certainement l'occasion d'en discuter entre vous au cours des prochains jours. Je vous souhaite donc des échanges profitables et surtout, bien sûr, un agréable séjour à Québec. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Nous apprécions beaucoup la vision que vous avez du secteur énergie, l'intégration des différentes formes d'énergie. Nous partageons bien entendu ce point de vue avec vous. Et nous vous souhaitons bonne chance pour les prochaines semaines et aussi plein d'énergie pour vous. Nous invitons maintenant Monsieur Antoine Ayoub. Monsieur Ayoub est licencié en droit de l'Université de Damas, docteur d'État en sciences économiques de l'Université de Paris. Il a été professeur d'économie à l'Université d'Alep et doyen fondateur de la Faculté des sciences économiques. Il est professeur invité de l'Université de Paris en 1969 et depuis 1969, professeur à l'Université Laval et directeur fondateur du groupe de recherche en économie de l'énergie et des ressources naturelles. Son CV est très élaboré. Monsieur Ayoub a une très vaste expérience dans plusieurs pays et j'aimerais souligner un point que je ne connaissais pas ici. Monsieur Ayoub est chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, officier dans l'ordre des palmes académiques et récipiendaire de la médaille d'honneur du Collège de France. Monsieur Ayoub, on vous invite à prononcer votre discours.
Eh oui, avec l'âge, il faut deux lunettes. Alors. Monsieur le Président, avant d'introduire ce colloque qui coïncide avec le 25e anniversaire de notre institution, je dois m'acquitter d'agréables dettes de remerciements et de reconnaissance que j'ai contractées tout au long de cette période. La liste est bien entendu longue. J'espère n'oublier personne. Et j'espère aussi que vous l'écoutiez sans trop vous impatienter. Tout d'abord et avant tout, l'Université Laval et le ministère des Ressources naturelles du Québec, dont vous avez accepté, Monsieur le ministre d'État et Monsieur le recteur, de venir représenter en confirmant ainsi une tradition qui remonte à notre premier colloque en mars 1973. Votre présence et votre participation aujourd'hui prouvent, s'il en est besoin, l'encouragement et le support que vous avez apporté depuis le premier jour. Je dois aussi souligner du même souffle les contributions importantes que le ministère des Ressources naturelles du Canada n'a cessé de nous offrir, non seulement pour l'organisation de ces colloques, mais aussi pour le financement et le développement de notre institution sœur, qui est le GREEN, le groupe de recherche en économie de l'énergie et de l'environnement, qui fête aussi 125e anniversaire. Sans le soutien de ces trois piliers, nos deux entreprises auraient difficilement résisté à l'usure du temps et aux aléas du financement des institutions universitaires. Une mention toute spéciale doit être ici soulignée pour l'aide et la collaboration enthousiaste que nous recevons depuis bientôt 10 ans de l'IEPF, l'Institut de l'énergie des pays francophones, dont le directeur exécutif est parmi nous, ainsi que de plusieurs compagnies d'énergie, et cela depuis les dernières années seulement, d'ici et d'ailleurs, et dont les noms se trouvent être affichés avec le remerciement d'usage que nous leur devons. Le deuxième groupe à qui je dois adresser mes remerciements sont nos conférenciers, plus d'une centaine depuis 25 ans, qui représentent sans conteste les meilleurs spécialistes au monde du secteur de l'énergie. Ils représentent tout aussi bien le milieu des affaires que les organismes gouvernementaux, les institutions internationales, les universités et les centres de recherche dans le monde. Sans leur confiance et sans leur collaboration, nos colloques n'auraient pas eu le rayonnement international qu'ils connaissent depuis leur fondation. Le troisième groupe, c'est vous tous, les participants et participantes à nos réunions. Sans votre présence active, tous nos efforts auraient été sans lendemain. Pour donner une idée de votre attachement à notre institution, qu'il me soit permis de mentionner que depuis 1973, environ 2000 cadres supérieurs du secteur de l'énergie venant de approximativement en moyenne 35 à 40 pays différents dans le monde ont découvert pour la première fois, à l'occasion du colloque, notre charmante ville de Québec. La majorité d'entre eux sont revenus de manière récurrente à ces colloques qui devenaient pour eux, comme ils disent, le rendez-vous de Québec. Face à tous ces supports, à toute cette confiance et à toute cette fidélité, je voudrais dire au nom de mes collègues et en mon nom personnel un grand merci à toutes et à tous à l'occasion du 25e anniversaire. Croyez-moi bien, et ce sera le dernier mot, je n'oublie pas du tout, au contraire, tous les travailleurs et travailleuses, mes collaborateurs, collaboratrices surtout, qui ont travaillé d'arrache-pied à l'organisation de ces rencontres, et cela depuis toujours. Ne croyez pas que la chose est simple, nous sommes après tout à l'université, et je dois le déclarer d'une manière tout à fait directe, et nous travaillons encore au stade artisanal, comme il se doit pour les universités. Alors, je dis ça parce qu'il faut quand même faire un petit bilan. Au moment où des colloques comme ça, par exemple à Houston ou à Paris ou à Genève ou j'en sais plus rien, enfin dans ces grands centres, sont des machines pour faire des colloques, eh bien nous, on a résisté contre vent et marée à se transformer en machines pour garder notre indépendance d'idées, d'esprit, de discussion et de liberté de discussion et de diversité de points de vue. Voilà, je tenais à le dire, c'est fait. Le thème général de ce colloque est l'énergie, comme c'est indiqué, 25 ans après le premier choc pétrolier. Entre 1973 et aujourd'hui, que de chemin parcouru. Ce qui se déroule sous nos yeux actuellement et qu'on appelle privatisation, libéralisation des marchés, globalisation, mondialisation, tous ces phénomènes sont en réalité à l'extrême opposé des credos qui dominaient la décennie 70, dans le secteur pétrolier et gazier, et plus généralement dans l'ensemble du secteur de l'énergie, et je dirais même de l'économie. Quatre constatations peuvent être facilement faites pour faire le pont entre hier et aujourd'hui. En effet, première constatation. Au moment où le mouvement des nationalisations dans l'ensemble des pays producteurs, même les pays producteurs qui étaient pour la libre entreprise, par exemple l'Arabie saoudite, dont je me rappelle très bien, le fameux ministre qui est resté en poste au-delà de 25 ans, le cheikh Yamani, disait « Nous avons contracté avec les compagnies pétrolières un mariage catholique. » Vous savez qu'est-ce que c'est le mariage catholique, je crois. C'est-à-dire qu'on ne veut pas divorcer. Eh bien, ils ont divorcé, même les Saoudiens, ils ont divorcé, ils ont nationalisé quand ils ont vu les autres pays de l'OPEP l'un après l'autre à commencer à nationaliser, en commençant, bien entendu, par l'Algérie, mais je dirais, même pour la vérité historique, bien sûr pas pour l'importance, ça a commencé en Syrie. On était très fiers de nos ressources naturelles et du peu de ressources naturelles découvertes à l'époque, mais on croyait qu'on était effectivement sur des réserves pétrolières presque inépuisables. Et par conséquent, on a commencé, avant de les découvrir, par les nationaliser. Eh bien, ne croyez pas que, par exemple, dans les pays qu'on dit industrialisés, ça n'a pas été la même chose dans les années 70. Le Canada lui-même, par exemple, a créé Petro-Canada. Or, Petro-Canada, c'est une compagnie d'État. Et avant Petro-Canada, pour les régions qu'on appelait des régions un peu éloignées, il y avait aussi dans une compagnie, qui est une compagnie publique canadienne, dont j'oublie maintenant le nom, et qui tenait compte effectivement des risques de l'exploration dans les frontières un peu aléatoires. Aujourd'hui, par rapport à hier, tout ceci est balayé par un mouvement très puissant en sens contraire. Aujourd'hui, on ne trouve le salut que en répétant le mot privatisation. Et ces privatisations sont un peu partout. Ils n'ont pas encore atteint les pays de l'OPEP, mais quand on regarde, par exemple, l'Argentine a privatisé, et tous les autres. Et puis, il n'y a personne aujourd'hui, par exemple, qui. Aucun dirigeant, je crois, lui traverse l'idée de nationaliser. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que les compagnies pétrolières quittent facilement. D'un endroit à l'autre, ils ont l'embarras du choix, ce qui n'était pas tout à fait le cas en 70. Deuxième phénomène, au contrôle supposé de l'OPEP, du marché pétrolier durant toute la décennie 70, répond aujourd'hui le développement vertigineux des marchés boursiers. Le spot, mais pas seulement, tous les marchés dérivés, à terme, à option, qui viennent gonfler ce qu'on appelle, ou ce que d'aucuns appellent la bulle financière, et rendre la financiarisation du marché de l'énergie une réalité. Non seulement donc ces marchés pétroliers, ces marchés boursiers ont dominé depuis maintenant pratiquement 83-84 le marché pétrolier, mais tout aussi bien le gaz naturel et l'électricité. De telle sorte que le marché de l'énergie, de fragmenté qu'il était par forme d'énergie, est en phase de devenir, monsieur le ministre l'a indiqué, est en phase de devenir un marché unifiant les formes d'énergie. C'est exactement ça ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation. Les firmes commencent à ne plus vouloir ou pouvoir faire uniquement du pétrole ou uniquement de l'électricité ou uniquement du gaz. Il y a des firmes qui font de la multi-énergie, comptant sur, effectivement, d'aller capter la rente à la base entre ces trois formes d'énergie. Troisièmement, et troisième constatation, ce qui intéresse certainement nos amis qui viennent de très loin, les pays africains, pays et latino-américains, le fameux dialogue nord-sud, duquel on attendait, rappelez-vous, pour ceux dont l'âge leur permet de se rappeler, on attendait l'émergence d'une nouvelle, le nouvel ordre économique international. Ça, c'était matraqué durant toute la décennie 70. Qui devait, ce nouvel ordre économique international, en principe, régler le problème de la sécurité des approvisionnements, de la détermination des prix du pétrole, cela pour le Nord, en contrepartie pour le Sud, régler les problèmes du développement de ces pays, et ils sont nombreux, comme vous le savez. Par exemple, problème de la dette, déjà, le problème de la stabilisation des prix des matières premières, déjà, mais cela depuis la Deuxième Guerre mondiale. Troisièmement, le problème de l'aide Quatrièmement, le problème du transfert de la technologie, donc série de dossiers dont le nouvel ordre économique international était censé apporter la réponse pour un monde meilleur. Bien. Aujourd'hui, bien entendu, depuis longtemps, le dialogue Nord-Sud a été enterré par le président Reagan à Cancun. On n'a plus parlé. Et aujourd'hui, ce n'est plus le mot d'ordre du tout. Le mot d'ordre est un credo qui est matraqué comme s'il était un sésame, ouvre-toi pour tous les problèmes, et qui se résume par deux mots, libéralisation des marchés et mondialisation. Libéralisation des marchés et mondialisation. Rares sont ceux qui se penchent pour voir, mais après tout, cette libéralisation, qu'est-ce qu'elle contient? Quelles sont ses contraintes? À quoi peut-on s'attendre? Et puis finalement, même la mondialisation en elle-même, je dirai quelques mots peut-être à la fin du colloque, parce que je ne veux pas commencer par donner au colloque une certaine orientation, pas du tout, mais je donnerai mes opinions à la fin du colloque quand arrive le temps des conclusions et après avoir écouté avec attention toutes vos interventions et argumentations. Je me contente pour l'instant seulement d'évoquer quelques problèmes. Finalement, problème numéro 4, au problème soulevé jadis, rappelez-vous encore, par les fameux pétrodollars, n'oubliez pas que je suis en train de faire le bilan de 25 ans dans le métier. Alors j'ai entendu ça souvent. Les fameux pétrodollars, les fameux surplus en dollars, dont il fallait de toute urgence à l'époque, recyclés dans l'économie mondiale au risque de succomber à une crise financière internationale. Qui disait ça? Ne croyez pas seulement que les journaux disaient ça. Ce n'est pas seulement une revue respectable comme The Economist. Pas seulement. Mais la Banque mondiale. La Banque mondiale, je me rappelle très bien, deux articles de son vice-président dans Foreign Affairs, à l'époque, nous indiquer, selon des projections tout à fait claires, comme quoi, si on ne recycle pas les pétrodollars qui doivent augmenter à une allure vertigineuse, eh bien le monde va vers une crise internationale, vers une crise financière internationale. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Deux choses. Un, les pays producteurs de pétrole, non seulement n'ont plus rien à recycler, mais ils sont tous endettés. Deuxièmement, la crise financière internationale qui sévit actuellement trouve son origine dans les pays que l'on a longtemps considérés comme des pays exemples, les miracles, le miracle asiatique. Et ça, j'utilise aussi un mot qui a été utilisé il n'y a pas si longtemps, un livre très très bien fait, un rapport magnifique par la Banque mondiale, je m'excuse de représentant de la Banque, je lui ai déjà dit que je le dirais, mais parce que, effectivement, j'ai donné à mes étudiants, et à chaque fois comme référence, parce que c'est très bien fait, et tout le monde était d'accord pour dire, mais oui, ces pays-là, vraiment, ils ont dépassé tous les standards et en très peu de temps. Ils ont des taux de croissance économique de leur PNB de l'ordre, en réel de l'ordre de 7 à 10 % et cela pendant 30 ans. Ça, c'est jamais vu. Donc, c'est les tigres et c'est des miracles économiques. Ça s'appelle Asian Miracles. C'est le livre et le rapport de la Banque mondiale. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Qu'il faut pour le moins regarder attentivement ces miracles. Autant il paraissait, vis-à-vis de ces quatre phénomènes, et j'ai choisi, bien sûr, il y en a d'autres, autant il paraissait incongru de s'interroger, pour ne pas dire de s'opposer, jadis au credo des années 70, c'était impossible, par exemple, d'en parler, surtout dans les pays producteurs de pétrole, lors des séminaires, etc., de mettre, non pas en cause, mais de s'interroger un tout petit peu, à savoir, est-ce qu'il n'y a que les nationalisations, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose, est-ce que les nationalisations ne peuvent être faites de telle ou telle autre manière? C'était vraiment les credo des années 70. Autant qu'il est aujourd'hui inconcevable, jusqu'il y a seulement un an, de réfléchir calmement et d'une manière critique, sur ce puissant courant planétaire de libéralisation et de mondialisation. Il faut encore, paraît-il, être dans le vent au risque d'avoir le destin de feuille morte, comme disait récemment le philosophe français Jean Guitant, centenaire. Alors, être dans le vent risque d'avoir le destin de feuille morte, c'est-à-dire ne pas exercer sa capacité de critique. Ce n'est pas être pour ou contre. Je suis plutôt pour le libéralisme, mais pour un libéralisme intelligent qui peut effectivement accepter les critiques et non pas pour l'intégrisme dans le libéralisme. Mais face aux dégâts déjà enregistrés et aux risques d'effondrement toujours possibles, les langues commencent à se délier. Et pas par n'importe qui. C'est M. Michel Camdessus, directeur général du FMI, qui, en donnant sa vision de ce qu'il appelle « crise de la mondialisation », déjà, je répète, c'est pas n'importe qui, c'est le patron du FMI, et qui a été considéré comme l'homme le plus important en Asie, pour des raisons évidentes. Eh bien, il déclare au journal Le Monde, il y a encore 2 jours seulement, que, je cite, « la libéralisation a parfois été conduite en dépit du bon sens ». Je ferme la parenthèse. Mieux encore, il déclare que nous entrons dans le 21e siècle, celui de Bill Gates et de George Soros, avec un marché régi comme au temps de Balzac. Je ferme la parenthèse. Et qu'il faut, je continue, mettre les pendules à l'heure. Je ferme la parenthèse. Voilà des déclarations qui sont des déclarations tout à fait importantes, puissantes, venant de quelqu'un dont on regarde tous dans la direction du FMI pour voir comment il va faire pour régler le problème russe et pour régler le problème de l'Asie du Sud-Est, Indonésie et compagnie, et éventuellement, que peut-on faire, par exemple, dans le cas du Japon. Pour ce qui nous concerne, essayons donc de faire ce qu'ils nous demandent, c'est-à-dire de mettre les pendules à l'heure, dans le secteur de l'énergie qui nous intéresse plus particulièrement. En nous posant la question suivante, quels sont les facteurs qui ont transformé le contexte dans lequel évolue ce secteur du tout au tout entre 1973 et aujourd'hui? Bien sûr, il y a, en général, l'engouement, on l'a dit, pour le néolibéralisme mis de l'avant et défendu par Mme Thatcher et par le président Reagan, et cela pendant toute la décennie 80, bien sûr, ça a joué. Bien sûr aussi, il y a l'échec et l'effondrement du système soviétique, la chute du mur de Berlin, et l'absence apparente de toutes sortes d'alternatives au libéralisme ambiant. Tout cela a joué, et tout cela continue à jouer un rôle capital. Mais, pour moi, il y a 4 raisons spécifiques que je voudrais seulement citer, et éventuellement détailler un peu. 4 raisons qui tentent d'expliquer ce paradoxe du renversement du tout au tout. Premièrement, je constate, j'observe historiquement, que ni l'OPEP, ni la majorité des observateurs, je m'y inclus, n'ont pu ou su interpréter correctement les signaux du marché et s'ajuster en conséquence. Je vous donne seulement quelques exemples. Dans les années, fin des années 70, j'ai essayé, au Green, de réunir au-delà de 30 projections venant de différentes sources qui vont des centres de recherche aux compagnies pétrolières et gazières et d'électricité, et même jusqu'aux projections de la CIA. la conclusion sur laquelle tout le monde était d'accord était que, en 1985, il y a même parmi ces projections des gens, des observateurs qui ont pris le luxe de décider de la date, 1985, on risque non seulement un troisième choc pétrolier, mais un déficit physique, un déséquilibre physique. Ce qui ne veut strictement rien dire quand on y réfléchit, parce qu'on sait très bien qu'un déséquilibre physique se résout dans le marché, c'est-à-dire que les prix montent. Donc, s'il y a moins d'offres par rapport à la demande, les prix montent et c'est tout. Il y aura un autre équilibre, mais un déséquilibre, mais enfin,